Europe 1,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, au service d'un monde qui change. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des pépites françaises, des talents, de l'audace, des idées, des femmes, des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises au sommaire de votre émission. Elle regroupe 55 écoles en France, dont le groupe ESG, le cours Florent ou encore Penningen. Ce groupe est en train d'inventer le modèle hybride de l'éducation, le patron monde de Galileo Global Education. Et l'invité de La France bouge. À la une, les études, nous sommes à la traîne sur les mathématiques, difficiles à matérialiser, notamment quand il s'agit de l'apprentissage de la géométrie ou des nombres. Les mathématiques deviennent désormais ludiques grâce à Kidaya, l'application basée sur l'holographie. On découvre cette start-up d'ici quelques minutes. Ensuite, direction l'école de notre président de la République, l'école de la Providence à Amiens. Ça va de la maternelle jusqu'au BTS. Cette école existe depuis le milieu du 19e siècle. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire, la CCI, et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on reçoit Olé Cours. C'est une plateforme de recommandation de cours artistiques sur Paris. Il paraît que ce sont les meilleurs cours de Paris.
On va les tester alors. Allez, rendez-vous à 13h45. Et puis en fin d'émission, on va passer un coup de fil au PDG du groupe CF là-bas, des initiatives mises en place par des jeunes et pour des jeunes. Allez, bienvenue dans La France bouge, vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici, à La France bouge. Vous êtes au bon endroit sur Europe 1 pour les découvrir. La France bouge, c'est votre rendez-vous qui fait bouger les lignes. La France, c'est un pays de pépites, d'innovation et d'idées. Les lycéens ont jusqu'à demain, en fait c'était aujourd'hui, mais
report de 24 heures,
il y a eu un bug sur la plateforme Parcoursup pour qu'ils puissent confirmer leurs vœux. Alors aujourd'hui, gros plan sur l'éducation, sur les études supérieures. Notre invité du jour et ses équipes accueillent ces étudiants. Ils les connaissent bien. Bonjour Marc-François Mignot-Mahon.
Bonjour.
Vous êtes le PDG monde de Galileo Global Education. C'est mondial, hein, Galileo. C'est un groupe d'écoles. Vous connaissez peut-être leurs écoles. Il y a le groupe ESG, le cours Florent ou encore Penningel et plein d'autres. 200 000 élèves dans une quinzaine de pays, environ 35 000 collaborateurs, dont 20 000 professeurs. Marc-François Mignot-Mahon, ça existe depuis une dizaine d'années, Galileo. Votre objectif, c'est que ces jeunes trouvent un emploi à la fin de leurs études. C'est ça le seul objectif.
Oui, notre credo à nous, c'est l'employabilité. La promesse qu'on fait à nos étudiants, c'est dans nos écoles, les cursus et l'ensemble de ce qui est fait pour les former les amène à un emploi et aussi à du savoir devenir, c'est-à-dire être capable, puisque les mutations professionnelles sont très 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 rapides depuis une vingtaine d'années et elles s'accélèrent, aussi capable d'évoluer. Donc c'est l'employabilité à la sortie des études.
Avec un taux de combien d'employabilité ?
Entre 80 et 85%.
Entre 80 et 85%. Pour que l'on comprenne bien l'employabilité,
c'est-à-dire
qu'ils trouvent un emploi dès qu'ils sortent d'études. Hein.
Mais voilà. Enfin, toutes les écoles promettent la même chose. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette évolutivité après dans le temps ? Parce que je ne connais pas une école qui dirait venez chez moi, on a que 10% d'employabilité.
Non, mais en fait, vous savez, ce qui a été la grande réforme des compétences, et on en reparlera, je pense, j'imagine, parce que c'est vraiment une filière que qu'on appelle de nos voeux, a amené déjà à structurer des cursus sur les compétences. Mmh. Donc déjà, on a levé l'employabilité. Mais la France, c'est le pays de l'OCDE qui intègre le moins bien ses jeunes. Donc, c'est pas aussi simple
que ça. Effectivement.
Quand vous le dites, voilà, il y a énormément de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Mmh. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'attelle à cette tâche. On est toujours en train de bougonner. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, cette mandature, ce gouvernement a fait beaucoup de réformes qui vont dans le bon sens pour l'employabilité des jeunes.
Alors justement, d'abord, pour nos auditeurs, tout le monde ne connaît pas Galileo Global Education, je le disais tout à l'heure, c'est un mastodonte de l'enseignement supérieur. Hein. C'est vrai, vous avez créé, vous tout seul, c'est un modèle économique exceptionnel, Nathalie.
Ah ben assez, enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas d'autres avec effectivement autant d'écoles, autant surtout de cursus différents.
C'est ça.
Des fonds d'investissement, enfin, en fait, c'est une entreprise.
Alors, c'est un industriel.
C'est ça.
Nous ne sommes pas du tout des financiers. Nous avons un projet éducatif global qui est justement de rassembler des disciplines artistiques, créatives, technologiques.
Donc, ce n'est pas des écoles
business.
De commerce.
Il y a des écoles de commerce.
Oui, il y en a, mais ce n'est pas seulement ça.
Ah non, pas du tout.
Alors, il y a quoi ? C'est quoi, Galileo ?
Vous avez des grandes filières comme la santé, on en reparlera. mais vous avez des grandes filières de tout ce qui concerne le management, la communication, le marketing, tout ce qui fait fonctionner une entreprise. Et puis, vous avez des filières de technologie, d'innovation, de digital, et des filières d'art, d'art appliqué, de design. Mm. Et c'est l'ensemble de ce brassage qui permet de proposer à des jeunes la pluricompétence, en fait. Hein. Le monde d'aujourd'hui, vous savez, vous prenez votre iPhone, pardon pour la publicité, on peut en citer d'autres, mais c'est du marketing, mais pas que. C'est de la technologie, mais pas que. C'est de la finance et puis, mais pas que.
C'est ça, vous aimez dire, Marc-François Mignot-Mahon, PDG de Monde de Galiléo Global Education, vous aimez dire que c'est une disruption dans le monde de l'enseignement, vous, ce que vous proposez. C'est-à-dire que vous proposez un mix de tout ce qui existe aujourd'hui dans notre quotidien.
Alors en fait, si vous voulez, par exemple aux USA, ça fait longtemps que les très grandes facultés américaines et tous les GAFAM sont sortis de leur cafétéria. Hein. C'est l'ingénieur qui sait lire un compte d'exploitation, qui connaît un marketeur, qui rencontre un type. Et c'est comme ça qu'on a créé toutes les grandes entreprises mondiales. Elles sortent toutes. Le laboratoire, on a coutume de dire, c'est le laboratoire de rencontre, c'est la cafétéria des grandes universités américaines.
Et vous, c'est comment la cafétéria chez Galiléo ?
On l'organise. On essaye de faire en sorte que, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Les cours Florent font un master avec Paris School of Business.
Donc, tout ça, ça appartient.
Une des grandes écoles de commerce de notre pays, qui est dans le groupe également, Galiléo. Et vous avez un master où, je vous assure qu'un jeune qui veut faire manager et qui comprend que son corps est un instrument de persuasion, qu'il peut pousser des arguments avec ses appuis, avec ses mains, qu'il peut convaincre des gens, c'est un autre leadership. Eh bien, cette personne qui a compris ce qu'il pouvait faire de son vecteur personnel sera jamais le même manager.
Évidemment, et c'est ça en fait la clé. Donc, c'est ce modèle hybride qui vous distingue des autres écoles.
C'est surtout, en fait, c'est que le monde est comme ça et qu'on considère que l'éducation doit bouger des lignes pour se rapprocher du monde qui est là. Parce qu'il n'y a pas que l'hybridation des contenus, elle est évidente, on vient d'en parler. Bien sûr qu'il faut qu'aujourd'hui, le designer soit capable de parler à ceux du marketing et à l'ingénieur qui conçoit les produits. C'est ensemble qu'ils vont faire un produit. Et ils vont même les co-construire avec le public. Vous savez, aujourd'hui, on ne vient pas avec un truc, tout le monde disant, voilà, c'est le produit miracle, c'est pour vous. On co-construit nos marques et nos services avec nos clients. Et donc, effectivement, il faut apprendre à être un chef de projet pluricompétent et qui comprend tous les domaines. Mais par ailleurs, il y a les territoires aussi. Le monde est un village et souvent, c'est compliqué de faire des études internationales. Alors évidemment, si vous avez les moyens, vous êtes parti des 0,01% qui peuvent aller à Harvard, ça va pour vous. Mais sinon...
Vous êtes présent dans une quinzaine de pays.
Voilà, et ça n'est que le début.
Ah ouais, c'est ça, vous voulez être partout.
Conquérir le monde.
C'est ça. Hein.
Mais ce n'est pas une conquête.
Un petit peu, mais c'est bien, c'est un vrai modèle d'entreprise.
C'est au service des différents pays, parce que vous développez les compétences des jeunes dont on a besoin, finalement.
Absolument, mais cette entreprise sera probablement l'une des plus grandes organisations humaines de la planète dans les années qui viennent, parce qu'en fait, il le faut. Si vous devez pouvoir partir faire un semestre, quand vous êtes un ingénieur, de design à Milan. Vous devez pouvoir faire un parcours de compréhension des enjeux politiques à l'Institut Madiba, l'équivalent de Sciences Po qu'on a créé au Sénégal. Vous devez pouvoir aller en Asie, comprendre les problématiques de la technologie, et on y a installé des écoles, et on prend des écoles qui sont en Inde, par exemple, ou en Chine, et permettre ce parcours. Vous savez, si un jeune revenait du 15e siècle aujourd'hui, il s'évanouirait devant une Tesla, mais pas forcément devant une salle de classe. Donc il est nécessaire de faire bouger ces lignes.
Mais évidemment. Vous affichez une croissance de combien, là, Galiléo ? Parce que vous avez acquis là, récemment une école d'art appliqué en Angleterre. Enfin, vous n'arrêtez pas. Quelle est votre croissance par rapport à l'année dernière ou 2019 ?
En général, on double de taille tous les deux ans.
Il double de taille tous les deux ans. Voilà, rien que ça.
Vous savez, on a un cap, le cap minimum pour être capable de proposer cette variété des géographies et des contenus à nos jeunes, et puis ensuite de dépenser assez d'argent dans la recherche pour pouvoir transformer l'acte pédagogique, digitaliser les contenus, se rapprocher au plus près des besoins des entreprises pour cette fameuse
employabilité. Aux besoins des entreprises. Vous n'avez pas dit aux besoins des étudiants. Vous avez dit aux besoins des entreprises.
Alors les cursus doivent répondre aux besoins des entreprises. Si vous cherchez à avoir de l'employabilité... Il faut bien que...
Mais vous avez peut-être trouvé la meilleure formule, c'est-à-dire au lieu d'aller du côté des étudiants et ensuite on s'adapte, c'est l'inverse, c'est aux étudiants de s'adapter aux besoins des entreprises. Vous restez avec nous, Marc-François Mignot-Mahon. Vous êtes le PDG Monde de Galileo Global Education et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Pour attirer les enfants vers les mathématiques, une start-up a inventé un outil et une méthode qui peut s'utiliser seule ou en classe. Ça s'appelle Kidaya et on la découvre dans un instant.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises. La France est une terre d'innovation et on vous le montre chaque jour dans La France bouge. À mes côtés, évidemment, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes ravis d'être avec vous, Marc-François Mignot-Mahon. Vous êtes le PDG Monde de Galileo Global Education. Et nous, ce qui nous frappe avec Nathalie, c'est que ça n'existe que depuis 11 ans finalement, Galileo.
Alors oui, c'est vrai que...
Ça a que 11 ans.
Les écoles ont parfois 50 ans.
Non, mais vous, ça existe depuis 11 ans et vous êtes un mastodonte de l'enseignement supérieur européen. Vous formez environ 200 000 étudiants dans plus de 80 campus répartis dans 15 pays. Ça va de la Chine au Mexique, en passant évidemment par la France. Et vous prônez le modèle hybride, c'est-à-dire des formations en management, mais aussi dans les arts. On mélange le tout parce que toutes ces compétences vont nous servir. Tiens, Marc-François Mignot-Mahon, est-ce que vous voyez des étudiants fraîchement diplômés du baccalauréat? Ils sont comment en maths?
Alors en mathématiques, on sait...
qu'on a un problème.
Il n'y a pas très longtemps,
y a un souci,
Cédric Villani...
Et qui a une
certaine expertise sur le sujet. Et donc, on a aujourd'hui une difficulté pour faire percevoir à nos jeunes l'intérêt pour les filières scientifiques et notamment les mathématiques.
Donc ils arrivent avec un niveau que vous constatez moins important que les années précédentes.
Le niveau n'est pas forcément en baisse, mais par contre l'appétit est moins élevé. Ça. Donc vous savez, quand vous avez une filière qui est très fournie, il y a une émulation et ça fonctionne. Évidemment. Quand la filière se raréfie, évidemment. C'est
d'ailleurs, il y a des patrons qui tirent la sonnette d'alarme par rapport à ce décrochage des mathématiques parce qu'il y a moins d'heures au lycée. Les filles aussi qui délaissent les sciences parce qu'avec la réforme du bac, elles ne sont pas obligées, nous ne sommes pas obligés de prendre maths. Et justement, nous, on a trouvé une start-up qui va peut-être redonner goût aux mathématiques. Bonjour Paul Escudé.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Vous êtes le cofondateur de Kidaya, ça s'écrit K-I-D-A-I. Avant, ça s'appelait Prof en Poche, peut-être que vous connaissez tous. Ça existe depuis 2016. Et Kidaya, c'est pour faciliter l'apprentissage des mathématiques en primaire en les rendant ludiques, accessibles. Comment? Grâce à un jeu éducatif qui est composé d'un kit holographique et d'une application. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous décrire le principe?
Absolument. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me prêter l'antenne aujourd'hui et de parler de quelque chose d'aussi important que les mathématiques chez les enfants. Alors je rebondis sur ce que disait Marc-François Mignot-Mahon juste avant sur le fait de faire bouger les lignes et d'être dans une démarche de co-construction publique-privée. Donc nous, on est une start-up qui édite des solutions numériques pour l'éducation et depuis bientôt 2 ans, nous avons co-construit avec le ministère de l'Éducation nationale et des centaines d'enseignants partout en France une solution s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour aider les enseignants en salle de classe dans la différenciation, la personnalisation des cours, et également pour rendre l'apprentissage ludique et interactif avec les enfants.
Et pour cela, vous vous êtes beaucoup inspiré de l'univers des jeux vidéo.
Oui, on s'est beaucoup inspiré de l'univers des jeux vidéo. C'est un univers qui plaît beaucoup aux enfants, qui leur parle. On est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la majorité, quasiment 60% des enfants qui rentrent en classe de 6e, ont peur des mathématiques. Ils développent une crainte d'avoir des mauvaises notes et donc des émotions négatives.
Mais c'est fou parce que quand même, la langue française est hyper difficile. Les plus que parfaits, passés composés, passés simples.
Non, mais en fait, on l'apprend plus, donc c'est comme ça qu'on a réglé le problème.
Non, mais c'est vrai, ils arrivent en ayant peur en 6e.
Oui, la majorité d'entre eux ont peur des mathématiques. Ils développent donc des émotions négatives. Or, les sciences cognitives aujourd'hui nous montrent très bien que pour progresser dans une matière, il faut se l'approprier et il faut développer des émotions positives. Et c'est exactement ce que l'on cherche à faire avec Kidaya. Donc c'est du CP au CM2. On cherche à donner le goût des mathématiques aux enfants, comme vous le disiez, grâce à une approche de jeux vidéo, de vidéos éducatives immersives. Tout ça pour faire découvrir un petit peu plus la magie des maths aux enfants et leur montrer à tous et à toutes, également aux petites filles, qui manquent un petit peu dans ce genre de filière, on le voit dans le supérieur aujourd'hui, mais leur prouver, leur donner la confiance qu'en fait, ils ont le potentiel pour devenir bon en mathématiques. Et on le sait aujourd'hui plus que jamais, les métiers du futur, dans leur grande majorité, auront une composante mathématique très forte.
Très forte, mais pour qu'on le comprenne bien, vous nous aviez dit que c'était pour une aide pour les enseignants, mais si pour nos auditeurs qui ont envie de s'approprier Kidaya et de se dire, tiens, mais moi je vais aider ma fille ou mon fils avec votre solution, c'est possible ou il faut que ce soit forcément en lien avec l'école ?
Alors c'est tout à fait possible, on est en lien avec l'école, on est distribué par le ministère de l'Éducation nationale sous un nom qui s'appelle Mathia, donc là je m'adresse aux enseignants qui peuvent nous écouter. Pour ce qui est des parents et des familles qui souhaiteraient l'utiliser à la maison, il leur suffit de se rendre sur kidaya.com, kidaia.com. Nous proposons plusieurs formules pour accéder à nos contenus et à nos ressources pédagogiques et ça plaît beaucoup aux familles qui en profitent et les élèves et les enfants qui jouent tous les jours.
Bonjour, on peut avoir été à l'aise en maths en primaire, mais être bloqué justement en fin de collège ou à l'arrivée du collège. Est-ce que vous prévoyez des modules un peu différents justement pour les collégiens, les lycéens ?
Oui, ça ne s'arrête pas au CM2.
Oui, voilà.
Oui, on est précisément en train de travailler ces sujets-là pour développer justement le cycle 3 et le cycle 4, en particulier pour le collège. Et on est également en train de travailler sur de nouveaux sujets à la demande des parents. Il y a une demande qui est assez forte sur des sujets liés au environnement, au développement durable. Enfin, voilà, c'est un sujet qui est central aujourd'hui et pour lequel les enfants, cette génération-là, aura un rôle essentiel demain. Donc aujourd'hui, on est très basé mathématiques primaires.
Ça va évoluer. Et puis pour les particuliers, c'est sur abonnement pour que voilà. Je crois que c'est moyennant. C'est un abonnement de combien ?
C'est un abonnement. Ça fonctionne un petit peu comme Netflix. C'est sans engagement. On peut vraiment tester et arrêter quand on souhaite. La plupart de nos clients et des parents restent au moins une année scolaire et souvent plus. Et c'est un abonnement qui commence autour de 7 euros par mois.
7 euros par mois. Qu'en pense notre témoin du jour, Marc-François Mignot-Mahon, PDG Monde de Galileo Global Education ?
Ça ne peut aller que dans le bon sens, en fait. Mm. Quand je vous disais qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions pour intéresser nos jeunes
au métier de demain, même si on ne les connaît pas tous.
Voilà. Et encore une fois, dans les mutations professionnelles, la dimension sous-jacente technologique, elle repose aussi sur des mathématiques. Et la France ne doit pas perdre, pas prendre de retard sur le sujet. Donc, c'est forcément des super initiatives.
Vous regardez un peu ce qui se passe dans les start-up, justement, là, de l'éducation ?
Oui, bien sûr. Vous savez, nous, on n'est pas du tout un fonds, un industriel. Donc, à notre capital, nous avons des gens comme la Banque publique d'investissement,
BPI.
L'État français, la BPI. Et la BPI est très active dans les tech. Donc, on a beaucoup de connexions et on regarde effectivement.
Pourriez vous aider de start-up pour des modules, pour des écoles.
On utilise régulièrement toute cette innovation et cette innovation française et mondiale pour apporter ces innovations à nos étudiants, bien sûr. Évidemment, en plus, après, il faut passer à l'échelle. Faire ça pour l'échelle de plusieurs centaines de milliers d'étudiants. Mais véritablement, c'est essentiel de pouvoir aussi dynamiser, l'acte pédagogique par justement ces initiatives
par
digitales.
Par ces initiatives. Paul Escudé, votre ambition, c'est quoi une fois que vous allez... vous êtes présent en France, vous êtes sur les maths, mais vous allez peut-être aller vers des sujets environnementaux, sur le développement durable aussi, c'est-à-dire selon le même procédé.
Oui, selon le même procédé. Là, nous travaillons ce sujet-là avec des collectivités aujourd'hui, puisque nous avons une vision de l'écologie qui est assez territoriale. L'idée étant de non seulement sensibiliser les enfants à l'écologie, au développement durable, mais aussi d'avoir une composante territoriale pour permettre aux collectivités de justement mettre en valeur leur territoire et ses spécificités en termes d'environnement. Et aujourd'hui, nous avons des parents d'élèves qui sont abonnés à nos services en France, un petit peu en Belgique, un petit peu en Suisse. Le prochain sujet pour nous, ça va être justement l'internationalisation sur des pays comme le Canada ou encore en Afrique, sur des marchés essentiellement francophones.
Et vous reviendrez nous en parler, Paul Escudé. Vous êtes le fondateur de Kidaya, Kidaya qui nous fait aimer les mathématiques. Restez avec nous sur Europe 1. À suivre, direction Amiens, à l'école de la Providence. C'est une institution qui va de la maternelle à la terminale et même il y a quelques classes de BTS. Et c'est la saga du jour. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour hein, entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, nous sommes ravis hein, avec Nathalie Carré d'être avec vous. Marc-François Mignot-Mahon, vous êtes le PDG Monde de Galileo Global Education. Alors si vous nous rejoignez à l'instant, hein, vous savez que les lycéens ont 24 heures de plus pour valider leurs vœux dans Parcoursup. Il y a eu un bug sur la plateforme et donc c'est aussi l'occasion pour nous de faire le point sur ces études supérieures. Combien difficile hein, de choisir, de faire un choix comme
ça.
Faire un choix, on est au mois d'avril et il faut réfléchir à ce qu'on a envie de devenir d'ici 4 à 5 ans. Alors que Marc-François Mignot-Mahon, vous nous l'avez dit en début d'émission, vous êtes en train de finaliser là, en ce moment la reprise d'une école d'art appliquée en Angleterre et vous annoncez aujourd'hui la création, l'acquisition de nouveaux établissements qui vont former des étudiants au métier des filières en tension. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a des gros métiers en tension, notamment dans le domaine de la santé. Galileo, justement, est en train d'intervenir sur ces points précis.
Oui, c'est vraiment notre vocation, en fait, d'être utile, puisqu'on travaille sur l'employabilité. On est une espèce de tiers de confiance, nos écoles, entre les besoins des entreprises et les jeunes qui cherchent à se former pour trouver un métier. Comme vous le dites, la question est assez complexe pour un jeune de 18 ans, de dire qu'est-ce que je vais faire. Donc, on crée effectivement des écoles. Des exemples concrets. On lance une école de droit qui s'appelle Elige, parce que l'université forme merveilleusement bien tous les professeurs de droit et les avocats. Mais l'ensemble des professions qui sont connexes pour un avocat, vous allez avoir 4 ou 5 collaborateurs autour de lui. Eh bien, ces professions sont en tension très forte.
C'est-à-dire, on a du mal à trouver quoi ? C'est quoi comme profession ?
Mais ça va être les personnes qui vont faire toutes les investigations, qui vont aider aux travaux de recherche, qui vont documenter les dossiers. Ça va être l'assistante administrative, ça va être le gestionnaire du cabinet, ça va être tout l'ensemble de ce qui aujourd'hui accompagne.
Donc dans votre école de droit, vous n'allez pas former au métier d'avocat, mais à tous les métiers connexes.
Parce
c'est formidable, vous allez trouver plein de niches comme ça.
Mais ce n'est pas des niches.
Mais si, mais
c'est 30 ou 40 000 par an qui en
manquent. Oui, mais des niches dans la formation.
Alors en fait, on croit que ce sont des niches, mais le monde d'aujourd'hui, il est constitué de filières. Et il faut aller... des filières qui sont des compétences. C'est pour ça qu'on prône, nous, vraiment, de travailler par les compétences, parce que c'est celles qui amènent à l'emploi. Il ne s'agit pas d'avoir des grands systèmes génériques, comme on l'a eu depuis des siècles, mais aujourd'hui,
vous allez
des métiers.
Dans le besoin.
Des métiers.
Le besoin. Vous identifiez le besoin, vous créez une école. En gros, c'est ça, vous.
Mais on va prendre un autre exemple. un institut de formation des aides-soignants.
Aujourd'hui,
on a créé, et on remercie la région du Grand Est qui a participé à cette expérimentation avec nous, il manque 60 000 aides-soignantes par an, c'est pas du stock, c'est du flux. 60 000 aides-soignantes par an en France. 580 000 par an en Europe. Alors après, on peut dire, bon, c'est pas grave.
Si,
c'est grave.
La population qui vieillit, on en a tous besoin. On va tous besoin à un moment donné. Hein.
Bien entendu. Alors on a, en la région Grand Est, créé un IFAS. On a digitalisé le contenu à 70%, le contenu du cursus de l'aide-soignante. Et via l'apprentissage, qui est une solution remarquable pour effectivement trouver un emploi et faire cette filière des compétences, eh bien vous avez des jeunes femmes, c'est une profession qui est féminine à 95%.
Oui, mais il y a quand même des hommes, il faut les faire venir.
95%, c'est pour ça que je me permets de le dire, il n'y a aucun ostracisme dans mon propos, vous l'imaginez bien. Et donc vous faites venir ces jeunes femmes, là où elles sont, elles vont travailler en apprentissage dans l'EHPAD, suivre, qui est à côté de chez eux, suivre leur cursus en ligne, avoir des bootcamps d'une semaine pour des gestes qui doivent être faits in situ.
Oui, parce que l'aide-soignant, il faut
faire des gestes,
c'est la technique.
Entendu.
On n'est pas
donc,
juste derrière un écran.
Digitaliser, on le digitalise. Ce qui doit être fait sur place est fait sur place dans des semaines un peu plus intensives. Et comme c'est en apprentissage, bien des gens qui ne pouvaient pas, qui ne se voyaient pas faire ces métiers, qui ne se voyaient pas encore se former, eh bien vont aller se former. Alors, immédiatement, c'est un succès. On va ouvrir dans plusieurs régions. On va ensuite travailler sur la question des infirmières. C'est quasiment les mêmes chiffres.
Et après, il faudra travailler, mais ce n'est pas votre domaine, sur la question des salaires. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'aides-soignants, c'est aussi parce qu'il y a un problème de salaire.
Alors, il y a une autre chose sur laquelle on peut travailler et sur laquelle on travaille. C'est aussi la formation tout au long de la vie. Nous, on prône une carte vitale des compétences qui permet à une aide-soignante de travailler sur un travail d'infirmière, de travailler sur un travail de cadre infirmier. Et c'est cette évolution aussi dans les carrières qu'on doit apporter par la formation à toutes ces femmes et ces hommes qui veulent s'engager dans les carrières médicales.
Le cadre français de la formation, enfin, qui est quand même assez figé, en fait, avec des UV, des modules, des France compétences, enfin, bref, ça ne vous limite pas en fait, dans votre créativité pour innover, pour proposer ce genre de parcours ?
Énormément de choses ont été faites pendant ces 5 ans et proposées par le gouvernement. Il y a eu des réformes de fond. Il faut les prolonger, les massifier, les intensifier. Moi, je dis aujourd'hui, si on va et on poursuit la droite et qu'on propose, nous, on a une proposition d'un contrat universel d'emploi-formation pour tous les 17-25 ans, on propose que ce soit un droit constitutionnel, que la France fasse une espèce de plan Marshall pour ces jeunes. Bien, vous savez déjà qu'il y a 718 000 contrats en alternance dans le supérieur. En montant à 1,5 million, ce n'est pas une promesse de Gascon. Je ne suis pas un homme politique, je vous le dis. On aura réglé la question du problème des jeunes à la fin de cette mandature si on va vers 1,5 million de jeunes dans l'apprentissage.
Bah, j'espère que vous allez voir tous les candidats pour leur en parler.
Alors justement, on a interpellé tous les candidats et évidemment.
Vous avez fait des propositions.
On a fait des propositions sur ce sujet évidemment et on a eu des écoutes très attentives et de toute façon, le gouvernement travaille notamment avec un jeune solution sur des choses qui ont fait beaucoup bouger les lignes et qui ont permis aujourd'hui, on a des taux de chômage qui baissent, on a une meilleure intégration. Continuons. Parce qu'on est toujours morose. Mais moi, je vous dis.
Mais pas ici. À la France Bouge, on ne l'est pas. Justement, chaque jour, on aime revenir ici sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association qui ont traversé les années, qui sont là, toujours en France. Aujourd'hui, on va se diriger vers l'école de la Providence. On va partir à Amiens, découvrir l'école de notre président de la République. Cette école existe depuis 1850 et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France Bouge. La saga.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Elisabeth.
La Providence, c'est une ville dans la ville. Ce sont de grands bâtiments, un parc, une salle de spectacle, un complexe sportif et même une piscine. Et cet établissement existe depuis le milieu du 19e siècle.
Oui Elisabeth, cet établissement a donc une longue histoire. Derrière lui, il a vu défiler des milliers d'élèves. Parmi eux, le général Leclerc, François Ruffin et vous l'avez dit, notre président Emmanuel Macron. Alors pour comprendre l'histoire de la Providence, il faut revenir au tout début du 17e siècle. Henri IV autorise la construction d'une école jésuite dans le centre-ville d'Amiens. Et en 1850, elle devient l'établissement que l'on connaît aujourd'hui, avec un enseignement classique mais privé et sous contrat avec l'État. Il est détruit par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les jésuites décident de reconstituer un nouvel établissement au même endroit, une école d'un nouveau genre. C'est ce que nous dit Benoît Bernard, chef d'établissement de la Providence à Amiens.
Et en lui, cette idée très simple, si je puis dire, c'est de dire de quoi a besoin un élève qui est chez nous. Si vous voulez, jusqu'à présent, il y avait des bâtiments et nous essayions de faire rentrer le projet dans les établissements, dans les bâtiments existants. Et bien là, les jésuites ont pris la démarche inverse et se sont dit, eh bien nous avons nous besoin pour un élève, par exemple d'une salle de classe, d'une place à l'étude, d'une place dans un gymnase, d'une place à l'internat, d'une place dans le réfectoire, etc. Et donc, ils ont construit l'établissement autour du projet. C'était la volonté des fondateurs de pouvoir avoir un établissement dans lequel les élèves puissent vivre l'intégralité du projet.
Alors justement, Charlotte, quel est le projet de cette école ?
Eh bien, tout simplement de créer un écosystème où tout le monde peut cohabiter. La Providence, c'est un établissement qui va donc de la maternelle jusqu'au BTS et il est même devenu, depuis une dizaine d'années, un centre d'apprentissage et de formation. Donc en clair, un enfant de 8 ans peut croiser dans la cour de l'école un salarié de 50 ans qui se forme à l'électricité, par exemple. Mais oui, c'est génial. La Providence est un établissement très vaste, 14 hectares et 36 000 mètres carrés de bâtiments.
Et ce qui fait l'originalité de ce projet, c'est que c'est vraiment une atmosphère, si je puis dire, très particulière où un jeune qui vient ici peut très bien passer, et j'ai beaucoup de familles d'ailleurs qui me laissent leur enfant ici de 3 ans à 18 ans jusqu'à l'âge du baccalauréat par exemple. Quand un enfant rentre chez nous, il ne devient pas un élève. Un enfant qui rentre à la Providence ou un jeune qui rentre à la Providence reste un enfant ou un jeune, avec son histoire, avec ses envies, avec ses passions, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui me semble être vraiment important et prépondérant, central dans la façon que nous avons d'accompagner les jeunes.
Et depuis 150 ans, la Providence ne cherche qu'une seule chose, l'excellence humaine.
Beaucoup disent oui, donc vous êtes élitiste, mais pas du tout, parce que par exemple, dans cet établissement, aucune sélection n'est faite sur le niveau scolaire à l'entrée. C'est notre travail à nous d'amener un jeune, quelles que soient ses difficultés, là où il veut aller, pour l'aider à concrétiser son projet. Alors c'est valable au collège, c'est valable au lycée professionnel. Nous sommes associés par contrat à l'État, donc si vous voulez, ils ont la même progression, les mêmes programmes que les élèves d'un collège public, par exemple. C'est simplement le projet particulier que nous mettons en place qui fait la différence.
C'est fou, ça n'a aucune sélection sur note à l'entrée. Alors concrètement, quel projet cette école a-t-elle mis en place ?
Eh bien par exemple, les élèves de seconde ont un parcours appelé Rencontre, qui a un objectif, connais-toi toi-même. Donc, ce sont les appétences, les préférences de l'élève qui sont priorisées.
C'est centré sur l'élève, alors.
Exactement. Donc, par exemple, je suis élève à la Providence, je veux devenir journaliste. Eh bien, je peux réserver mon mercredi après-midi au journal de l'école ou à une web radio, etc. Et c'est valable pour tout le reste.
Si par exemple il y a un élève qui est plus fort sur le domaine artistique, eh bien nous allons plutôt l'aider sur ces matières pour trouver un levier, pour qu'il puisse retrouver confiance en lui par exemple, et puis qu'il se dise « ah ben oui, là j'ai du potentiel que je peux pourquoi pas utiliser dans d'autres matières ». Nous avons aussi une salle de spectacle par exemple de 500 places là, qui a été rénovée récemment, qui permet aux jeunes, et nous avons une centaine de jeunes qui font partie des options théâtre, où là bah, ils apprennent à maîtriser leur corps, à maîtriser la façon de parler, etc., à faire preuve de créativité dans les décors ou autres. Nous avons aussi une piscine, donc nous accueillons des sportifs de haut niveau, nous avons un terrain de rugby dans le même esprit. Donc si vous voulez, c'est vraiment l'idée de se dire, à nous de trouver le levier sur lequel nous allons pouvoir agir pour que le jeune puisse retrouver confiance en lui et puis puisse utiliser ses compétences pour avoir une réussite scolaire et professionnelle par la suite.
Alors la Providence, c'est aujourd'hui 1800 élèves qui viennent tout juste de finir leur vœu Parcoursup. Enfin, ils ont
cours,
jusqu'à
hein.
ce soir.
Non, jusqu'à demain.
Jusqu'à demain,
ils ont 24
pardon.
Heures de plus.
C'est ça, 24 heures de plus. Ils seront donc médecins, ingénieurs, comédiens, professeurs, sportifs ou historiens. Tant de voix rendues possibles grâce à l'accompagnement des 110 enseignants de la Providence à Amiens.
Merci Charlotte Barrican. C'est passionnant cette histoire de cet établissement, l'histoire de la Providence. Nathalie Carré, je vous voyais écouter attentivement.
Oui, alors je ne connaissais pas du tout cette histoire, mais ils ont raison parce que finalement c'est l'humain c'est l'homme et ses capacités qu'il faut développer parce que c'est possible, en fait tout est possible pour tout le monde.
Tout est possible pour tout le monde, c'est pas juste des programmes à appliquer. Nous sommes toujours avec Marc-François Mignot-Mahon, PDG Monde de Galiléo Global Éducation. Je voyais prendre des notes pendant la saga de Charlotte.
En fait, je bois du petit lait parce que c'est exactement notre propos.
Donc vous, c'est prolongation.
Alors nous, on est la Providence, si vous voulez. Donc le processus qui permet de faire se rencontrer quelqu'un dans une proposition de valeur qui est plus vaste que « tu seras ceci, mon fils », et c'est exactement ce que l'on pense, nous. Mm. C'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble, la technologie, les arts, la création, l'innovation. Et puis, on viendra ce que l'on deviendra.
Mais ça coûte combien, le cursus, si on veut aller chez Galiléo ?
Parce que on parle de Galiléo,
ça depuis tout à l'heure, mais bon,
nous,
l'université
en France...
Nous, on s'adresse
aux classes moyennes, donc c'est vraiment très peu un sujet. D'abord, l'alternance, c'est pour 30%. L'alternance, vous êtes payé pour faire vos études. On a aussi 30% de boursiers. Et par ailleurs, on a un career center qui propose 40 000 offres de stages, de jobs, de travaux à côté des études pour financer ses études. Mm. Donc, comme
ça,
on a un prix moyen qui est inférieur à 7 000 euros... Vous voyez bien que là, franchement, c'est
prix
pas...
Prix moyen inférieur à 7 000 euros.
Prix moyen des études inférieur à 7 000 euros.
Par an,
oui.
Il y a beaucoup d'étudiants qui s'interdisent d'aller dans des écoles un peu comme
le budget. Oui.
Ah, ils ont tort, parce que d'abord, il y a des prêts à taux zéro. Oui. Si vous investissez pour vous, comme vous avez 85% d'employabilité, ça n'est pas une charge que vous grèvez. On n'est pas aux États-Unis avec des 500 000 euros d'emprunt. Enfin, on est très loin de toutes ces choses-là. Mm. Donc, investir en soi, c'est une chose. Puis ensuite, il y a aussi les bourses, la collectivité qui aide les jeunes qui sont les plus défavorisés. Il y a des systèmes de bourses que l'on fait nous-mêmes aussi. Donc nous, on est obsédés par la mission d'intérêt général, qui est l'éducation. Et donc, bien sûr, l'accessibilité est une chose forte. Mais je réagissais sur la chose dite par le recteur de la Providence. Une chose qui est très importante. 70% des élèves qui sortent du système scolaire se sentent au mieux moyens, sinon mauvais, dans les études.
C'est bizarre quand même.
Ils se perçoivent comme ça.
Mais ils se perçoivent comme ça. Parce que nous avons un système qui est un système qui sélectionne. Mm.
Et vous aussi, vous sélectionnez.
Eh bien,
vous
prenez non. pas tout le monde. Je dis exactement la même chose que le monsieur de Providence. Une école n'est pas bonne. Et là, il faut tordre le cou. C'est un vrai projet politique. Hein. Là, j'en appelle à tout le monde pour changer et bouger cette ligne. Une école, une université... parce que nous avons beaucoup d'universités en France, elles ne sont pas privées, donc on ne peut pas en avoir, mais partout en Europe, nous avons l'université, le droit privé. Une école ou une université n'est pas bonne parce qu'elle sélectionne. Ça, il faut arrêter.
Oui, mais même dans vos écoles, vous sélectionnez, vous prenez peut-être des gens en première année, mais ensuite,
on peut regarder
vous
le projet de quelqu'un,
en deuxième année.
Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas nos écoles, ce sont les jeunes. Et c'est ça qu'il faut changer. La formation s'adresse à des gens
qui ont envie.
On est là pour les développer, on n'est pas là pour les juger et les noter. Si vous voulez aller, moi je suis un pur produit d'université et des savants, donc je respecte ça formidablement, et si vous avez les moyens de faire des études longues et complexes et sélectives, il faut les faire et on en a besoin. Mais par contre, donner des capacités aux jeunes sans les noter, venez comme vous êtes et on va vous trouver un métier, ça c'est notre boulot.
Vous restez avec nous, Marc-François Mignot, Mahon, PDG Monde de Galileo Global Éducation. À suivre des cours de danse classique, de peinture ou des ateliers d'écriture. C'est le moment des pitchs et trophées de l'avenir avec les bons conseils de Nathalie Carré. La start-up, c'est Olécours. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Et là, notre témoin du jour, il est exigeant, attentif, bienveillant et c'est un expert aussi. Aujourd'hui, c'est Marc-François Mignot-Mahon. Vous êtes le PDG Monde de Galileo Global Éducation. Nous sommes toujours avec notre experte en chef, Nathalie Carré de la CCI. Et aujourd'hui, on va vous proposer un projet qui a été lancé en 2017. Bonjour Nicolas Lorac.
Bonjour.
Vous avez 38 ans. Vous êtes le fondateur de Olécours. Olécours, c'est une plateforme, alors déjà elle donne envie quand on va sur le site, une plateforme de cours artistiques comme le dessin, la peinture, le théâtre ou la danse classique. Vous avez fait Sciences Po, vous êtes un passionné de théâtre et vous avez toujours eu envie de monter votre boîte. Donc vous avez réuni les trois, ça s'appelle Olécours et vous allez nous raconter ce que c'est pendant une minute.
Bien, merci Elisabeth de m'accueillir. Donc j'ai créé Olécours parce qu'il y a quelques années j'avais cherché un cours de théâtre à Paris pour mes loisirs et à Paris il y a énormément de cours de théâtre donc le choix est très compliqué. Et ce problème on le retrouve pour la plupart des disciplines artistiques. Donc Olécours c'est un guide de recommandations de cours de dessin, de chant, de théâtre, de danse, d'écriture pour les loisirs justement dans ces disciplines où le choix va être très important. Parce que d'un cours à l'autre, la qualité va être variable, le style va être variable. Souvent, ce sont des cours qui sont chers, donc il est important de faire le bon choix, de ne pas se tromper. Et donc, sur le site, on a un véritable processus de sélection pour garantir la qualité des cours. Et donc, Olécours, ça va s'adresser à la personne qui cherche un cours à l'année, qui cherche un stage ponctuel. Si jamais vous voulez offrir un cours à un ami, on a un système de bons cadeaux. Et on a aussi une offre en entreprise pour faire des ateliers de team building ou des ateliers artistiques. Voilà.
Eh ben c'est bien, en dessous de la minute.
En dessous de la minute, parfait.
Merci à vous Nicolas Lorac, donc fondateur de Olécours. Nathalie, vous êtes allée faire un tour sur le site, vous avez tout analysé comme chaque jour. Quelles sont les forces et les faiblesses de Olécours?
Alors déjà, le titre des cours, en fait c'est pas cours de chant, donc moi j'ai cherché un cours de chant, donc j'ai pris le cours de chant.
En plus, je suis sûre que vous chantez bien Nathalie.
Faudra peut-être demander à ça, pas à ma prof. Bon, mais vos cours, c'est construire sa voix dans des cours particuliers collectifs ou faites vôtre les chansons que vous aimez. Du coup, c'est super simple à choisir parce que bah, voilà, on veut chanter les chansons qu'on aime et bah, on sait quel cours choisir. Bravo pour le descriptif des cours, c'est hyper détaillé et en lisant l'article, on sait vraiment si c'est ce qu'on cherche ou pas. C'est vraiment pas le cas sur les autres plateformes. Puis la transparence de votre démarche commerciale, en fait, vous dites, j'assiste au cours, j'écris un article et puis si ça génère des clients au prof, eh ben, on discutera business après. Alors, quelques suggestions pour simplifier encore. Déjà, préciser que meilleur cours, en fait, ça veut dire le cours qui me convient le mieux. On a tous, évidemment, des objectifs différents et des personnalités différentes. Ensuite, quand on est prof, en fait, comment on sait qu'on a le meilleur cours? Comment vous pouvez aider les profs à se dire, OK, je pensais bien faire les choses, mais en fait, d'après le référentiel de Olécours, c'est une réalité. Et en cela, vous deviendrez une sorte de label Olécours du meilleur cours. Vous avez un article aussi qui dit comment choisir son cours de théâtre, qui est super utile. Donc, on attend les mêmes pour les autres cours, évidemment, pour les autres arts. Et n'hésitez pas à mettre ces articles plus en valeur, notamment au début de chaque page qui propose les cours par art, par exemple, parce que quand on débute dans quelque chose, en fait, c'est compliqué de bien choisir, on a besoin d'aide. Et là aussi, vous pourriez devenir la référence de l'aide au choix, parce que se tromper de prof, c'est souvent en fait abandonner, et c'est vraiment dommage. Donc peut-être un diagnostic pour bien cibler son prof avec des critères en lien avec les objectifs de l'élève, et puis surtout, sa personnalité. Ensuite, vous êtes seul. Ce que vous faites, c'est un véritable travail de fourmi. Alors, comment aller vers d'autres villes, puisqu'on vous attend ailleurs, hein. Alors, votre point fort, c'est vraiment le fait que vous testiez les cours et la rédaction des articles sur chaque cours. Donc, il faut vraiment garder cet ADN. C'est ce qui fait vraiment votre différence. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas aller dans toutes les villes de France. Donc, peut-être imaginer une sorte d'association d'indépendants comme vous qui respecterait vos valeurs, votre démarche et qui pourrait chacun, dans sa ville, dans son village, repérer des profs, rédiger des articles et contribuer au développement de votre plateforme de recommandation. Petit à petit, vous pourriez donc couvrir la France et peut-être plus. Pourquoi pas décliner sur d'autres mathématiques que l'art, parce qu'il y a d'autres indépendants qui auraient d'autres centres d'intérêt. Parce que c'est vrai, finalement, le meilleur prof existe pour chacun d'entre nous. Et grâce à Olécours, on va pouvoir le trouver.
Allez-y, on vous écoute. Bien, merci Nathalie Carré.
Oui, je prends toutes ces remarques.
Oui, j'ai vu que vous aviez noté, il a pris plein de notes.
Ce serait intéressant d'aller dans d'autres villes, et je pense notamment à des grandes villes. comme Lyon, Marseille, où effectivement il y aura une offre très importante, et quand vous pouvez choisir entre 10, 15 cours de théâtre loisir, bah, c'est important de savoir où on va, parce que comme vous l'avez dit, faire une mauvaise expérience en théâtre, bah, ça peut être rebutant et on peut abandonner la discipline.
Vous avez de plus en plus de... Vous avez de la demande, beaucoup de demandes ?
Oui, j'ai pas mal de demandes, au sens où voilà, j'envoie beaucoup d'élèves, soit à l'année aux professeurs, parce que le site est quand même bien référencé sur Google.
Oui, très fourni, ouais. Voilà. Le site en tant que tel.
Dans les disciplines, effectivement, moi par exemple, je ne suis pas néanmoins sur le sport, le yoga, ça c'est quand même quelque chose, d'assez différent. Et j'ai aussi une billetterie sur laquelle je peux vendre des stages. Et je fais aussi beaucoup d'ateliers en entreprise, parce que les entreprises, après le Covid, sont très demandeuses d'ateliers, mettons, d'impro, de théâtre. D'ateliers de dessin, on a fait des ateliers de danse. Et donc ça, c'est aussi assez intéressant de pouvoir proposer ça. On peut même aller vers la formation avec le théâtre.
Marc-François Mignot-Mahon, vous êtes le PDG Monde de Galileo Global Éducation. Vous en pensez quoi ? Quel regard vous portez-vous sur Olécourt ?
Alors là aussi, évidemment, c'est très positif.
Mais parce que là, on replace l'humain au cœur.
On remet l'humain au cœur. En plus, ces disciplines artistiques et créatives qui n'ont pas vocation à devenir des professionnels, forcément, pour ces cours-là. Et donc, c'est des champs différents des nôtres, mais elles sont utiles pour le développement des personnes.
Mais oui, justement, Nicolas en parlait après le Covid, il y a eu beaucoup de demandes. Vous sortez deux années compliquées pour les étudiants avec les cours en distanciel. Comment vont-ils, nos étudiants, aujourd'hui ?
Alors, on a eu cette chance extraordinaire dans les écoles du groupe, c'est d'être un groupe et donc d'avoir la capacité. On a formé 3000 professeurs par jour. Dès le début de la pandémie, donc 98,5% de nos cours ont eu lieu en temps et en heure.
En distanciel.
En distanciel. Donc évidemment, on a été un taux de satisfaction très élevé avec parce que les gens étaient chez eux. On avait plus de jeunes en cours pendant la Covid que hors Covid.
Mais oui.
C'est le paradoxe de ça.
Et puis ça a développé aussi des liens avec des professeurs qu'ils n'auraient pas eu. Je te donne mon 06 si tu ne comprends pas.
Exactement. Il y a eu toutes sortes de choses formidables. Mais par contre, il y a un appétit à se revoir, à se toucher, être ensemble, qui est très fort.
Mais c'est un modèle qui va perdurer, le distanciel, au sein de vos écoles ?
Alors, dans tous les cas de figure, la révolution technologique du digital a été largement accélérée en termes d'acceptation par la Covid. Nous, on est déjà dans une recherche forte avec de l'intelligence artificielle pour la personnalisation des cours, pour la capacité à l'accompagnement de l'individu plus centré sur lui-même. Et ça, c'est très important pour justement ramener tous ces gens-là dans le monde... je dirais, du développement personnel, comme l'initiative Olécourt le fait, en proposant et en sélectionnant le bon prof pour chacun.
Justement, vous recherchez des professeurs pour Olécourt.
Oui,
ça qu'on peut vous aider
Oui, voilà. Alors, moi, les professeurs me sont soit recommandés, soit j'ai des professeurs qui me sollicitent directement, mais dans ce cas-là, il y a un processus de sélection.
Ça s'appelle Olécourt. Merci à vous, Nicolas Lorac, d'être venu aujourd'hui nous présenter votre projet dans La France Bouge. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher,
c'est simple. e1-lafrancebouge@europe1.fr, l'adresse email. Et donc Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La prochaine cérémonie, de la 7e cérémonie, ça fait déjà 7 ans, ce sera le 29 juin. On aura l'occasion de vous en parler. À suivre demain au travail, des initiatives mises en place par des jeunes pour des jeunes. Objectif, le bien-être au travail. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec le PDG Monde de Galileo Global Éducation, Marc-François Mignot-Mahon et Nathalie Carré de la CCI. La France bouge, qui met en avant ses entreprises, qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations. Comme chez vous, Jean-Philippe Romero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG du groupe CF, c'est la compagnie fiduciaire, c'est un groupe d'expertise comptable et d'audit qui existe depuis 40 ans, 800 salariés, 40 associés. Et vous d'ailleurs, vous êtes le PDG, mais vous avez commencé en stage à la compagnie fiduciaire.
Oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir eu un seul employeur, c'est la compagnie fiduciaire. Je suis rentré en qualité d'expert comptable stagiaire et puis j'ai progressé et évolué au sein de la société et aujourd'hui j'en suis PDG.
Et en partant de là, vous puisez vos idées et l'énergie chez les jeunes parce que l'objectif c'est de se sentir bien au travail. Et vous avez mis en place une politique d'embauche de jeunes collaborateurs, vous voulez leur donner une chance.
Oui, effectivement. On a vraiment orienté l'attractivité de notre entreprise vis-à-vis des jeunes puisque effectivement on a du mal à trouver le collaborateur providentiel hein, qui a 35-40 ans.
Il y en a plein chez Galiléo.
Très bien. Justement, c'est les jeunes que nous souhaitons attirer d'abord dans notre profession et plus précisément au sein de notre cabinet, la compagnie fiduciaire.
Alors donc, pour les jeunes qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, moins de 30 ans, je crois que vous avez mis encore des petites choses en place.
Oui, effectivement. D'abord, on a une raison d'être à la compagnie fiduciaire, c'était construire votre avenir. Donc, ça concernait évidemment nos clients, mais ça concernait aussi nos collaborateurs et surtout nos collaborateurs, puisque à partir de ce concept-là, on a renforcé notre attractivité et on s'adresse particulièrement à la génération Y, puisque sur 800 collaborateurs, 30% de nos effectifs sont composés de personnes de moins de 30 ans.
Mmh. Donc, ce sont eux qui vous donnent les bonnes idées, les bonnes initiatives pour pouvoir se sentir bien au travail.
Oui, exactement, exactement. Donc, on a pris des initiatives un peu originales. Enfin, en tous les cas, on a la modestie de le penser. Pour vous donner quelques exemples, on a créé un shadow comité. Oui. Ça passe sur un site où il y a une centaine de personnes et en complément de la gouvernance, on va dire institutionnelle du site, on a réuni nos jeunes collaborateurs qui auront plus de 2 ans d'expérience et moins de 30 ans. Et ce groupe de travail participe à la gouvernance en étant force de proposition sur les gestions de projet.
La richesse du collectif, une fois de plus. Merci à vous, Jean-Philippe Romero, PDG du groupe de la compagnie financière. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge. Marc-François Mignot-Mahon, PDG du monde de Galiléo Global Education. On en sait beaucoup plus maintenant sur ces belles études supérieures où on peut faire à la fois de l'art, du management, voilà, ce modèle hybride. Merci d'être venu
et ravi de
dans
partager
La France Bouge.
Votre passion à trouver un emploi à nos jeunes avec vous et je vous remercie de votre accueil.
Merci à vous. Nathalie, nous on se retrouve demain. Nathalie Carine, France Bouge, qui va faire du sport avec une marque française emblématique des sports de plein air. Elle s'appelle
TBS.
TBS.
Terre battue synthétique, ça veut dire.
Et ben voilà. Allez, à lundi dans un instant le flash suivi de Christophe Rondelat.
Elisabeth Assayag sur Europe 1.